poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioallianceplus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. L'émission commence avec l'agenda de prochaines rencontres et de quelques autres rendez-vous nîmois. Elle se poursuit avec une tribune de la Fédération protestante de France sur le projet de loi concernant la fin de vie. L'émission s'achève avec une réflexion autour de la paix proposée par le groupe de pilotage du projet « Chemin vers la paix » de la Conférence des Églises européennes qui s'est récemment réunie en Allemagne. Information locale. Vous êtes toutes et tous bienvenus à la Maison du protestantisme. Elle est ouverte le matin du mardi au vendredi de 9h30 à midi et l'après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h. Le samedi, elle est ouverte de 10h à midi. Pour joindre la Maison du protestantisme, vous pouvez téléphoner au 04 66 67 97 40 ou envoyer un courriel à mdp.nim@free.fr. Quant à son adresse, est-il utile de rappeler qu'elle n'est pas loin de la Maison Carrée de Nîmes, aux 3 rue Claude Brousson. Jeudi 14 mai, c'est la fête de l'Ascension. Il n'y aura donc pas de repas à la Maison du protestantisme ce jour-là. Les repas reprendront à partir du jeudi 21 mai, toujours à 12h15. Voici l'agenda des rencontres de divers groupes qui se réunissent à la Maison du protestantisme. Tout d'abord, le Cercle littéraire. Il se réunira le vendredi 15 mai à 15h et on y parlera du livre intitulé « Le pavillon des enfants fous » de Valérie Valère. L'atelier Théophilo aura lieu, lui, le lundi 18 mai de 18h30 à 20h30. Le sujet sera défini en groupe. Le groupe Évangile et Liberté se réunira, lui, le mardi 19 mai à 17h30 sur le thème « Peut-on croire en un Dieu créateur ?» à la lumière des découvertes de Nicolas Copernic, Charles Darwin et Albert Einstein. Le groupe Les Embruns se réunira, lui, le jeudi 21 mai à 15h. Ce sera une présentation et initiation à la méditation avec un intervenant extérieur. Si vous souhaitez participer à l'un de ces groupes, il vous suffit de venir le jour et à l'heure de la réunion. Voici maintenant l'annonce de divers événements et rencontres. Tout d'abord, une exposition qui aura lieu jusqu'au 11 juillet au Carré d'Art. C'est l'exposition sur André Chanson. Elle est intitulée « Quels hommes sommes-nous devenus ?» C'est l'itinéraire d'un humaniste au XXe siècle. Cette exposition a d'ailleurs fait l'objet d'une émission de Sylviane Vichegros, émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site internet de Radio Alliance Plus. Association protestante d'assistance. L'Association protestante d'assistance, APA, nous rappelle que la friperie solidaire de l'APA aura lieu au 19 rue Bigot, le mardi 12 mai de 8h30 à 16h30. Le dimanche 31 mai à 10h30, au Temple de l'Oratoire, l'APA nous attend pour le culte pour la diaconie au sein de l'APA. L'Assemblée générale de l'APA se tiendra, elle, en présence de ses adhérents, le lundi 1er juin à 14h à la Maison des Adolescents. Vous pouvez adhérer à l'APA en envoyant un chèque au 19 rue Bigot, 30 900 Nîmes. Au-delà des divers rendez-vous que je viens de mentionner, vous pouvez d'ores et déjà noter d'autres dates importantes sur vos agendas. dans le hall de la Maison du protestantisme, une exposition intitulée « Mer et terre » de Agathe Mazzucatelli et Claude Roux. Elle aura lieu du 26 mai au 2 juin. Le vernissage aura lieu le 28 mai à 18h. Amitié judéo-chrétienne de Nîmes. La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 28 mai à 19h. Ce sera une conférence-étude d'Edouard Rebrecht sur le thème « Isaac et les Philistins » et puis, P-U-I-T-S, et puis, à la grange du monastère des Clarisses, 34 rue de Brunswick. C'est donc le jeudi 28 mai à 19h, à la grange du monastère des Clarisses, 34 rue de Brunswick. Le 30 mai à 16h, ce sera une conférence au Carré d'Art, une conférence de la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard, autour du thème « Survivre, une histoire des guerres de religion, 1562-1598 », une conférence qui sera donnée par Jérôme Foa, qui est historien. Au cœur du monde incertain des guerres de religion durant trois décennies du XVIe siècle, survivre, c'est tout un art. Comment mentir, se déguiser, simuler ou dissimuler sa confession religieuse? Comment vit-on dans un monde soudain hostile où sévisent les dénonciations de la part de voisins familiers et même de la parenté? Jérôme Foy, s'appuyant sur des chroniques contemporaines et des archives, met en lumière les savoir-faire et les savoir-vivre avec le trouble de cette époque. Vous pouvez aussi consulter le site internet de la Société d'histoire du protestantisme des Nîmes et du Gard, c'est shpng30.blogspot.com. Le jeudi 18 juin à 20h, ce jour-là aura lieu le premier spectacle proposé par le Carré protestant. Carré protestant, c'est le nouveau nom de l'ensemble de maisons du protestantisme et petits temples. Donc, premier spectacle présenté dans le petit temple entièrement rénové, le Grand Écart ou la révocation de Lady de Nantes. Lady écrit L-A-D-Y. Ce spectacle sera joué par le professionnel du théâtre qu'est Jean-Marie Perinetti. Retenez bien donc cette date, jeudi 18 juin, au Petit Temple. Fédération protestante de France. Voici une tribune de la Fédération protestante de France qui est parue dans le journal La Croix du 7 mai dernier. La proposition de loi sur la fin de vie arrive en deuxième lecture au Sénat. Le débat ne peut plus se limiter à des positions de principe. Au-delà des convictions, certaines dispositions concrètes du texte soulèvent des questions majeures qui engagent notre responsabilité collective. En matière éthique, les approches sont diverses au sein de la Fédération protestante de France. Les positions sur le droit à l'aide à mourir sont variées et en débat. Les questions de fond sont connues. Elles ont été largement discutées. Certaines voix expriment des réserves majeures, voire des oppositions, face à ce qu'elles perçoivent comme une rupture anthropologique, une fragilisation de la solidarité envers les plus vulnérables, ou encore une affirmation d'un droit individuel au détriment des responsabilités collectives. D'autres estiment que l'on ne peut pas poser une réponse définitive sur une question qui touche à l'intime et à l'ultime de chaque vie et que chaque être humain est libre de son choix, y compris face à sa propre mort. Au-delà de ces positions de principe, au regard d'une proposition de loi qui poursuit son processus d'adoption, la responsabilité du législateur est aujourd'hui celle d'examiner avec rigueur les modalités concrètes d'application d'un droit à l'aide à mourir. Et sur ce point, plusieurs dispositions interrogent. D'abord, la place accordée à la décision médicale. Le texte prévoit qu'un médecin puisse statuer, après avoir consulté un collège pluriprofessionnel, sur l'éligibilité de la demande. Pourquoi l'avis de ce collège ne serait-il pas déterminant? La loi Claeys-Leonetti de 2016 requiert une décision collégiale pour arrêter un traitement. Revenir sur ce principe de collégialité pour une décision autrement plus conséquente constituerait une régression difficilement compréhensible. Ensuite, la question de la temporalité. Le dispositif prévoit un délai maximal de 15 jours pour instruire la demande, auquel s'ajoutent 2 jours de réflexion après avis favorable. En moins de 3 semaines, une décision irréversible pourrait être prise. Ce rythme contraste avec d'autres réalités médicales. Certains traitements, notamment antidépresseurs, nécessitent un temps plus long pour produire leurs effets. Dans les pays ayant légalisé le suicide assisté, le temps est souvent considéré comme une garantie essentielle pour vérifier la constance de la demande. Pour quelles raisons le modèle français en ferait-il fi ? Autre point singulier, l'introduction d'un délit d'entrave. Si la proposition de loi va à son terme, la France serait le seul pays à prévoir une telle disposition. Faut-il redouter à ce point que des proches ou des soignants invitent une personne de manière répétée à encore y réfléchir, à dialoguer, à prendre le temps ? Le débat démocratique suppose aussi la liberté d'exprimer des doutes. La place de la famille ou de la personne de confiance mérite également d'être mieux affirmée. Le texte prévoit leur présence au sein du collège pluriprofessionnel si le patient le souhaite. Ne conviendrait-il pas d'inverser la logique en prévoyant leur participation par principe, sauf opposition explicite du patient ? Les conditions actuelles pourraient laisser des proches à l'écart, avec le risque de générer des incompréhensions ou des blessures durables pour les endeuillés. Enfin, l'évaluation du caractère libre et éclairé de la demande ne prévoit pas systématiquement l'intervention d'un psychologue ou d'un psychiatre. Or, chacun sait combien les situations de fin de vie peuvent être marquées par des vulnérabilités psychiques profondes. À cela s'ajoute une asymétrie troublante. Exercer une pression pour inciter une personne à recourir à l'aide à mourir serait 2 fois moins sévèrement sanctionné que le fait de l'encourager à prendre du recul. Ce déséquilibre interroge sur les repères que nous souhaitons collectivement poser. Ce débat engage notre conception de la dignité, de la liberté, de la solidarité. Il ne peut être réduit à une opposition simpliste entre compassion et refus. Il appelle au contraire une vigilance particulière sur les équilibres de la proposition de loi. Quelle société voulons-nous construire ? Une société où l'autonomie individuelle s'exerce dans un cadre protecteur, attentif aux plus vulnérables, ou une société qui sanctuarise la seule volonté des individus. Le législateur a aujourd'hui la responsabilité d'apporter des réponses justes, équilibrées et pleinement conscientes de leurs conséquences. Le débat parlementaire qui s'ouvre au Sénat est à cet égard une étape décisive. Conférence des Églises européennes. Je rappelle que la Conférence des Églises européennes, fondée en 1959, rassemble 116 membres parmi les églises orthodoxes, protestantes, anglicanes et vieilles catholiques de tous les pays d'Europe. Le groupe de pilotage intitulé « Voie vers la paix » de la Conférence des Églises européennes poursuit son travail pour une paix juste en Europe. Le groupe du pilotage du projet « Voie vers la paix » qui compte environ 15 personnes, s'est réuni à Hanovre, en Allemagne, afin de faire progresser son travail de consolidation de la paix et de résistance à la guerre, en accordant une attention particulière à l'Ukraine et au mouvement anti-guerre russe. La réunion s'est tenue du 13 au 15 avril dernier, accueillie par l'Église protestante d'Allemagne en coopération avec l'Église évangélique luthérienne de Hanovre. La réunion a débuté par une prière à la chapelle de l'église protestante. Des responsables d'église, des théologiens et des acteurs de la paix venus de toute l'Europe se sont réunis pour approfondir leurs réflexions et définir des actions concrètes en vue d'une conception œcuménique partagée d'une paix juste en s'appuyant sur les expériences d'Ukraine, de Russie et de toute la région. Ils ont été accueillis par Mgr Franck Copagna, évêque de l'Église protestante d'Allemagne et vice-président de la Conférence des Églises européennes, qui a souligné que la réunion du comité de pilotage offrait l'occasion d'échanger sur les contributions des différentes églises membres de la Conférence des Églises européennes en matière d'éthique de la paix. Monseigneur Friedrich Kramer, évêque de l'Église évangélique d'Allemagne centrale et commissaire à la paix du Conseil de l'Église protestante d'Allemagne, a présenté le mémorandum de l'Église sur l'éthique de la paix, le présentant comme un point de départ pour des discussions plus approfondies. Réflexion sur une paix juste. Ouvrant la consultation, le docteur Maximilian Schell de l'Université de Ruhr à Bochum a souligné l'importance du dialogue interculturel. L'initiative « Voie vers la paix » crée un espace œcuménique essentiel pour le dialogue sur la guerre et la paix, indispensable à une éthique de la paix tournée vers l'avenir, a-t-il déclaré, en soulignant le rôle central des églises ukrainiennes. Évoquant le mémorandum de l'Église protestante pour la paix 2025, il a insisté sur le fait que ce travail propose une orientation éthique plutôt que des réponses toutes faites, aidant ainsi les chrétiens à s'orienter face aux dilemmes moraux complexes en temps de guerre. Il a ajouté que l'Église doit être à la fois une voie morale et un lieu de discernement. La paix, a-t-il affirmé, ne peut être imposée par la seule force, mais doit être façonnée par la justice, la réconciliation et la responsabilité. L'évêque Jochen Cornelius Bunschur, président du comité d'action Service pour la paix, a déclaré que la sécurité ne se limite pas à la protection militaire, mettant en garde contre la réduction de la paix à la seule défense. Il a appelé à des solutions politiques, à un droit international renforcé et à une gestion élargie des conflits civils. La professeure Christine Schlisser de l'Université de Zurich a souligné le rôle des églises dans la vie publique. En tant qu'Église, nous sommes appelés à dénoncer l'injustice et la souffrance et à parler au nom de ceux qui ne peuvent pas parler, a-t-elle déclaré. Elle a mis en avant une théologie publique christocentrique dans laquelle la prière, le témoignage et la dénonciation de l'injustice sont des éléments essentiels de la mission des Églises. Les contributions récentes de l'Église évangélique luthérienne de Finlande, de l'Église de Suède et du réseau Église et Paix, une organisation partenaire de la Conférence des Églises européennes, au débat sur l'éthique de la paix, ont été intégrées aux discussions. Deux sessions spéciales ont été organisées avec la participation d'universitaires et de membres du clergé russe. Ils ont réfléchi au rôle et au témoignage des Églises en Europe face au conflit, ainsi qu'à l'importance d'écouter et de faire entendre les voix qui contestent les systèmes d'oppression, tout en témoignant concrètement de leur conscience morale et de leur lucidité au milieu de la peur et de la répression. La réunion a également souligné que, même dans un contexte de contestation pacifiste restreinte en Russie, de nombreux membres du clergé et laïcs risquent des sanctions, la destitution ou l'emprisonnement pour s'opposer au discours officiel. Malgré ces risques, ils demeurent de puissants témoins de la conscience, de la dignité et de la vérité, et les églises de toute l'Europe sont appelées à continuer à les soutenir. Pour terminer, une rapide présentation de deux ouvrages publiés par les éditions Olivetan. Tout d'abord, le dernier livre de Bruno Godelet intitulé « Le kérigme revisité », Essai sur la mort et l'espérance. Les croyances chrétiennes autour de la mort, de la résurrection et du jugement dernier sont particulièrement éprouvées par la modernité et la rationalité. Cet essai bienvenu les analyse en profondeur et leur offre un nouveau souffle. Et puis il y a aussi la troisième édition du désormais célèbre « Un catéchisme protestant » de Antoine Nuis, édition repensée dans un format plus maniable avec deux nouveaux chapitres, l'écuménisme et l'Église et la politique. C'est aux éditions Olivetan. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 7h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.